VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Lucia, d'accord, très heureux, Djamina, bienvenue à notre journal. Rien ne va plus entre le Tchad et le Qatar, qui a annoncé la fermeture de l'ambassade tchadienne à Doha et donne 3 jours au personnel pour quitter le pays. C'est en réponse à une mesure similaire prise par N'Djamena, John Lyndon.
Le Tchad a justifié la fermeture de l'ambassade qatari en accusant Doha de déstabilisation à partir de la Libye. Il avait donné 10 jours au personnel pour quitter le territoire tchadien. Un responsable du ministère des Affaires étrangères qatari a qualifié ces accusations d'infondées et a porté la réplique. Le personnel de l'ambassade du Tchad a 3 jours pour quitter le pays. Le Tchad avait rappelé son ambassadeur au Qatar en juin dernier. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Yémen et l'Égypte venaient de rompre leurs relations avec Doha, accusant ce petit émirat de soutien au terrorisme et de rapprochement avec Téhéran, grand rival de Riyad. Comme pour envenimer la situation déjà très tendue, le Qatar va rouvrir son ambassade en Iran, un pays soupçonné de soutenir le terrorisme.
Burundi, selon un rapport de l'ONU, les Burundais continuent de fuir leur pays en raison des sévices de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir. Le point avec Yakuba Ouédraogo.
Selon le rapport de l'Initiative internationale pour les droits des réfugiés, les meurtres et les disparitions forcées continuent à être perpétrés par la Ligue des jeunes du parti au pouvoir. L'ONU qualifie cette ligue de milice, même si Bujumbura ne l'entend pas de cette oreille, et demande aux réfugiés de regagner la patrie, estimant que la paix et la sécurité ont été retrouvées. Le rapport montre que le nombre de nouveaux réfugiés dans les pays voisins dépasse celui des Burundais qui sont revenus dans leur pays. Les violences ont déjà fait 2000 morts selon l'ONU et ont poussé à l'exil plus de 425 000 Burundais, dont 275 000 en Tanzanie. L'ONU a accusé Bujumbura de graves violations des droits de l'homme. Le Burundi traverse une crise depuis le troisième mandat controversé, en avril 2015, du président Pierre Nkurunziza.
RDC, confrontée comme la Sierra Leone à une coulée de boue meurtrière, les autorités congolaises affirment prendre les dispositions nécessaires face à cette catastrophe majeure sous le feu de critiques qui dénoncent une réponse tardive. L'éboulement du 16 août a eu lieu dans la province de l'Ituri, près du lac Albert, à la frontière de l'Ouganda et à environ 2000 km au nord-est de Kinshasa, la capitale. Personne ne sait encore précisément combien de victimes ont été emportées par cette coulée de boue qui a submergé le village de pêcheurs de Tara. Entre 150 et 200 victimes, selon le vice-gouverneur de la province, Pacifique Keta, en ajoutant les 40 corps déjà enterrés dans les 2 jours et ceux encore ensevelis sous les décombres des 48 maisons détruites. Au Kenya, c'est la guerre ouverte entre le président Uhuru Kenyatta et les parlementaires fraîchement élus. Ces députés, parmi les mieux payés au monde, cherchent à augmenter leur salaire 2 semaines après les élections générales. Le chef de l'État leur demande d'abandonner ce qu'il qualifie de tentative honteuse. Jacques Aristide.
Le président Kenyatta s'est dit profondément perturbé par des élus qui veulent être payés plus que ce que la loi prévoit avant même d'entrer en fonction. Il a promis qu'il ne promulguerait aucune loi sur une augmentation du salaire des parlementaires. Pour diminuer l'énorme masse salariale publique, l'État a décidé en juillet dernier de réduire légèrement les salaires des hauts fonctionnaires, du président aux dirigeants des comtés. Un député kényan peut toucher jusqu'à 10 000 dollars par mois, ce qui comprend un salaire fixe et de multiples allocations. Ce montant n'a été réduit que de 850 dollars. Toutefois, certains sont plus que mécontents. Pour la députée Gladys Wang, l'objectif est de dénigrer les députés et les réduire à l'état de mendiants. Une autre députée, Gatoni Wamuchomba, qui avait demandé sur Twitter à être bien payée, a dû faire marche arrière hier après une pétition lancée par des habitants de sa région pour empêcher son investiture. Les députés kényans avaient déjà irrité la population en 2013 quand leur premier acte était d'augmenter leur salaire, ce qui avait poussé les gens à descendre dans la rue.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Togo, l'Union pour la République, le parti au pouvoir, a appelé à marcher à Lomé les 29, 30 et 31 août pour soutenir le président Fornia Singbe dans le processus de réforme politique en cours. C'est ce qu'a indiqué le gouvernement togolais jeudi soir. Un regroupement de partis de l'opposition togolaise avait auparavant également appelé à marcher à Lomé les 30 et 31 août pour exiger des changements constitutionnels, accusant le parti présidentiel de faire traîner des réformes que les opposants réclament depuis 10 ans. Le combat pour l'alternance politique, CAP 2015, regroupement de 5 partis, le Parti national panafricain PNP et un autre regroupement de 6 partis de l'opposition exigent la libération des personnes arrêtées le 19 août lors des manifestations du PNP réprimées dans plusieurs villes du pays. La crise migratoire au cœur d'une rencontre lundi prochain à Paris. Le président français Emmanuel Macron a invité plusieurs chefs de gouvernement européens et des dirigeants africains pour en discuter. Éric Manirakiza.
Cette rencontre de haut niveau vise à réaffirmer le soutien de l'Europe au Tchad, au Niger et à la Libye pour le contrôle et la gestion des flux migratoires. D'après l'Elysée, Emmanuel Macron recevra d'abord Idriss Déby Itno et Mahamadou Issoufou. Il s'entretiendra par la suite avec la chancelière Angela Merkel, puis Federica Mogherini, chef de la diplomatie européenne. Suivra enfin une réunion commune avec la participation du Premier ministre italien Paolo Gentiloni, l'Espagnol Mariano Rajoy et le chef du gouvernement d'entente nationale libyen Fayez al-Sarraj. Une conférence de presse conjointe sanctionnera la fin de cette rencontre. Monsieur Macron a déjà pris plusieurs initiatives. Il veut notamment ouvrir des centres d'examen pour les candidats à l'asile au Niger, au Tchad et en Libye pour tenter de juguler les flux de migrants en France.
La Chine désormais le premier investisseur en Afrique en termes d'argent injecté dans des projets sur le continent l'an dernier. C'est l'une des principales conclusions du rapport 2017 du Financial Times sur les investissements directs étrangers en Afrique. Les États-Unis restent néanmoins l'investisseur le plus prolifique en nombre de projets. Pour une analyse, Jacques Aristide a joint à Abidjan, en Côte d'Ivoire, l'économiste Prime Nyamoya.
On ne peut que se féliciter de cet engouement à la fois de la Chine et des États-Unis pour l'Afrique. Cela répond à un besoin économique évident parce que ces investissements sont nécessaires pour booster la croissance économique en Afrique. Les États-Unis sont évidemment des investisseurs très importants. Les investissements directs étrangers américains se concentrent beaucoup plus sur les secteurs de pointe, sur le secteur de projets pétroliers, alors que la Chine se concentre plutôt sur les infrastructures en général.
Alors pour des dirigeants africains, Pékin est un partenaire non interventionniste qui investit notamment dans de méga projets. Est-ce donc un partenariat gagnant-gagnant ?
Absolument. Je pense que la Chine, qui a aujourd'hui les plus grandes réserves du monde, a besoin de diversifier ses investissements et l'Afrique ne peut être que gagnante. Les prix des matières premières vont également être boostés par la demande chinoise. La Chine investit essentiellement dans des projets d'infrastructure hydroélectrique, les routes, les barrages, etc. Ce dont l'Afrique a besoin absolument pour l'instant. Pour ce qui concerne, par exemple, les investissements en infrastructure, on peut donner l'exemple de l'Éthiopie où la Chine a financé un grand projet de réhabilitation de l'infrastructure des rails entre Addis Abeba et Djibouti, ce qui est une excellente chose pour cette région du monde.
Mais certains continuent de se poser cette question. Que cherche la Chine en investissant autant en Afrique? Que répondez-vous?
La Chine cherche en Afrique ce que les pays occidentaux ont toujours cherché pendant des siècles. Il s'agit des matières premières, les débouchés pour les produits manufacturés et les services divers, les communications, etc. Compte tenu des immenses besoins des pays africains pour les investissements, je pense qu'il y a de la place. Il y a largement de la place pour les États-Unis, la Chine ainsi que d'autres pays par ailleurs. L'Afrique ne peut être que gagnante s'il y a des projets qui sont financés à travers les IDE, les investissements étrangers.
L'économiste Prime Nyamoya joint à Abidjan, Côte d'Ivoire. Et pour terminer, le président des États-Unis, Donald Trump, a téléphoné à son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sissi pour lui exprimer son souhait de renforcer les relations avec le Caire, qui a été irrité par une réduction de l'aide financière américaine. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui la présidence égyptienne en précisant que Donald Trump souhaite voir les relations se développer davantage entre les deux pays et dépasser tout obstacle qui pourrait les affecter. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.